Radio Spirale. L'histoire adore les monuments, mais les grandes figures y perdent souvent leur humanité et leur complexité, à tel point qu'elles deviennent peu à peu inaccessibles. C'est avec cette idée en tête que Laurent Godet s'est attaqué à la figure d'Alexandre le Grand dans son dernier roman, Pour seul cortège. Une fresque historique, oui, mais au plus loin du péplum, tant le roman plonge dans l'intériorité du personnage. La rencontre était animée par Aline Apostolska et avait lieu à la librairie Olivieri en novembre 2012.
Bonsoir tout le monde. Merci de nous avoir attendus. En fait, on a bravé les Lestrigons et les Caribes et les Scylla pour arriver ici. J'ai le grand plaisir de recevoir et de vous présenter Laurent Godet ce soir. Bonjour Laurent.
Bonsoir.
C'est la première fois qu'il vient à Montréal, bien qu'il ait un lectorat important et enthousiaste aussi à l'idée de le rencontrer. Vous en doutiez, je crois.
Ah non, j'en doutais pas. Enfin, si, un petit peu. Non, c'est toujours une grande surprise et un grand plaisir de voir que les livres circulent plus vite que moi et que donc, voilà, ils ont traversé l'Atlantique avant moi. Moi, j'ai un gros problème avec l'avion, ce qui explique que j'ai mis un petit peu de temps à venir vous voir. Ça fait 8 ans que Lise, des éditions Leméac, me dit « il faut que tu viennes » depuis Le Soleil d'Escorta ou La mort du roi de Sangor, je crois. Et c'est vrai que voilà, j'ai fini 8 ans plus tard par braver mes propres peurs et me voilà avec un peu de retard.
Alors, Laurent Godet, pour le présenter brièvement, après des études en lettres et un DEA sur le thème du conflit dans le théâtre contemporain, a très rapidement publié, depuis 1999, toute son œuvre est aux éditions Actes Sud. Et beaucoup de livres depuis 1999, 23 si j'ai bien compté,
Wow.
Dont je les ai comptés, moi. Alors, c'est facile. Donc, il y a 12 pièces de théâtre, 7 romans déjà, et puis 4 récits et nouvelles. Je voulais, bien sûr, revoir votre parcours plutôt à posteriori, en commençant par le dernier, en signalant que... d'autres romans, enfin celui qui vous a vraiment d'abord fait connaître, c'était La mort du roi de Sangor en 2002, qui a eu le prix Goncourt des lycéens, et, ainsi que le prix des libraires, et bien sûr en 2004, Le Soleil d'Escorta, qui était le prix Goncourt, premier prix Goncourt des éditions Actes Sud, qui vient, comme vous savez, de remporter le prix Goncourt de cette année avec le livre de Jérôme Ferrari. Mais il y a tous les autres. Alors, quand il y a certains livres qui sont comme ça dans une très, très, très grosse lumière, ils ont peut-être tendance un peu à mettre les autres dans l'ombre ou non ?
Oui, je crois. Dans mon cas, le succès d'Escorta, dont je ne me plains pas, qui a été un très, très beau cadeau de la vie, a mis un peu dans l'ombre, je pense... Enfin, c'est pas qu'il ait mis dans l'ombre, mais... il a tellement mis en lumière l'aspect romanesque de mon travail que le théâtre, par exemple, est beaucoup moins connu. De toute manière, le lectorat pour le théâtre est généralement, et ça ne vaut pas que pour moi, moins important que le lectorat de roman. Donc, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert avec Le Soleil d'Escorta sans savoir. Et quand je dis beaucoup de gens, c'est le public, c'est beaucoup de journalistes aussi, hein, c'est pas que les lecteurs. Il y a beaucoup de gens de la profession qui savaient pas du tout qu'avant Le Soleil d'Escorta, il y avait déjà
plusieurs romans et beaucoup
années.
De pièces de théâtre.
Oui, et puis presque une dizaine, pas tout à fait 10 ans, mais au moins 5 ou 6 ans d'écriture théâtrale. Et moi, je viens de là, je me sens venir de là, j'ai vraiment l'impression que... Je suis rentré dans l'écriture par le théâtre, que les gens qui m'ont formé sont des gens qui appartenaient à ce milieu-là, donc j'ai encore ce sentiment d'être de ce milieu. Alors évidemment pas comme un comédien ou comme un metteur en scène, mais par l'écriture. Et donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que y a un côté génération spontanée, j'ai l'impression d'être né avec le Soleil d'Escorta, ce qui n'est pas vrai, mais c'est au fond pas très grave. Hein. C'est,
non, non mais bien. Ça veut dire sur le plan, évidemment l'écriture théâtrale, l'écriture romanesque, sur le plan de l'écriture formelle, c'est différent, les enjeux sont très très différents. Donc vous, pendant toutes vos études, qui étaient consacré justement au théâtre, sur un thème bien précis, sur lequel on va revenir. Donc vous vous voyez, avant d'écrire vos romans, vous vous voyez être plutôt un écrivain de théâtre, toujours?
Non, alors je ne me suis jamais dit, je vais essayer d'être dramaturge. Enfin, et ce qui m'intéressait, c'était l'écriture avec toute l'écriture. Simplement pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui, ça a pris pour moi cette forme-là, la forme théâtrale. C'est venu d'abord comme ça, c'était plus facile, plus naturel. Les premiers textes ont été des pièces. Mais même à l'époque où je n'écrivais que des pièces, il y a eu quelques années, là, en 1997, 18, 19, et même en 2000, où il n'y avait pas encore de romans, même dans ces années-là, il y avait l'envie un jour de me confronter au roman. Simplement, ça m'impressionnait un petit peu. Donc, je pense que j'ai attendu de me sentir capable. Et puis, ça m'impressionnait. Et puis, surtout, le théâtre, ça commençait un peu à marcher. Donc, une pièce en appelait une autre. Et puis, j'avais envie d'aller là-dedans. Donc, mais c'est vrai que quand je rêvais à une vie d'écriture, c'était l'écriture en général. C'était pas le théâtre.
Je vais revenir sur les enjeux et la différence aussi. Et à quel moment est-ce que maintenant que vous êtes dans plusieurs genres, que ça soit autant le roman que le théâtre, que les nouvelles, la poésie, comment un sujet qui naît dans votre tête va prendre telle forme ou telle autre? Et comment faites-vous ce choix-là, en fait? Parce que j'ai vu que plusieurs de vos romans, notamment le dernier, le thème, vous l'aviez déjà traité en théâtre dans Le Tigre Bleu. Et oui. D'autres de rates, et puis aussi la mort du roi Tsongkhor. Donc il y a des passerelles qui sont permanentes maintenant que vous marchez dans toutes les allées des formes littéraires. Il y a des passerelles permanentes. Comment faites-vous le choix aujourd'hui?
Eh ben je l'ai jamais fait. C'est-à-dire qu'heureusement, parce que je dis heureusement parce que je crois que c'est une position que j'aimerais pas beaucoup. Je me suis jamais dit, tiens, j'ai une idée d'histoire ou de personnage, est-ce que j'en fais une pièce ou est-ce que j'en fais un roman? Le problème ne se pose pas comme ça. J'ai une idée de pièce ou une idée de roman, mais j'ai jamais une idée sans savoir quelle forme elle va avoir. Donc c'est plutôt confortable de ce point de vue-là. Et puis, alors maintenant, il se passe des choses. Au début, je voyais beaucoup ça comme des formes différentes, et c'est vrai que ça l'est, et le plaisir était d'alterner. Je me disais, j'écris un roman, puis après j'écris une pièce, puis après je vais essayer une nouvelle. Il y avait dans cette alternance-là un vrai plaisir, parce que chaque forme reposait de l'autre, et puis c'est pas les mêmes outils, on n'apprend pas les mêmes choses, il y a des difficultés varient, etc. Ça change un peu, c'est-à-dire que je sais encore aujourd'hui que ce sont des formes différentes, mais je me rends compte que je commence à me demander si ce qui m'intéresse et ce qui va me préoccuper pour les 10 ou 20 prochaines années, Inch'Allah, c'est pas...
Il est très jeune, hein, malgré ses 23 livres, c'est ça. Il faut le dire. Donc il a beaucoup d'années devant lui.
Je me demande s'il n'y a pas un territoire intermédiaire qui en fait serait vraiment le territoire que j'ai envie d'arpenter et qui emprunterait un peu aux deux. Et du coup, l'opposition des formes me semble de moins en moins intéressante en ce qui me concerne. J'ai l'impression de mettre beaucoup d'oralité dans mes romans. J'ai l'impression que la question de comment mettre du récit au théâtre, comment faire sauter les coutures théâtrales par le récit, ça m'intéresse de plus en plus et ça finit par dessiner quelque chose qui a de moins en moins d'étiquettes et tant mieux au fond. Il y a une autre chose, c'est que quand j'ai commencé à écrire des nouvelles, ça a été d'abord un grand plaisir. Je pense que je vais continuer sur un rythme totalement irrégulier. J'ai pas encore de nouveaux textes, mais c'est quelque chose qui m'intéresse et je vais continuer à le faire, je pense. Je me suis rendu compte que entre une nouvelle à la première personne du singulier, j'en ai écrit quelques-unes, et un monologue de théâtre, donc forcément la première personne du singulier aussi, ça faisait finalement des textes d'un format un peu comparable, qui, quand ils sont lus à voix haute, durent presque 1 heure, et que je voyais finalement pas très bien la différence entre les deux.
Et pour moi, la différence fondamentale, c'est vraiment l'accès au public. C'est-à-dire, quand on écrit pour le théâtre, il y a une volonté de l'écrire pour quelqu'un qui va le dire et le transmettre au public, donc avec cette notion d'oralité qu'on va trouver en poésie aussi, d'une certaine façon, parce que la poésie, fondamentalement, vient de l'oralité, est destinée à l'oralité, alors que le roman, pour moi, c'est la communion du silence. Si quelqu'un écrit seul et en silence, et quelqu'un à l'autre bout lit seul et en silence. Et ça, c'est des différences qui sont vraiment fondamentales.
Absolument, vous avez infiniment raison. Non mais c'est vrai, c'est très très juste. Moi j'en suis arrivé à la même conclusion. Comme effectivement dans le... Comment dire, dans la forme, il n'y a pas forcément une différence notoire. Je parle à nouveau entre une nouvelle qui est un personnage qui vous raconte sa vie dans une nouvelle et qui parle sans cesse pendant 20 pages et un monologue de théâtre où finalement le personnage fait la même chose. La différence, elle n'est pas forcément dans la forme. Elle est effectivement... alors moi, je ne dirais pas l'oralité parce que comme en plus dans le roman ou dans le récit, j'aime bien travailler sur l'oralité, ça ne devient pas non plus un outil très opérant pour séparer, mais dans l'adresse. Effectivement,
oui, dans l'adresse.
Moi finalement je résume ça à ça. S'il y a marqué théâtre sur le livre, c'est que je l'adresse au théâtre. C'est-à-dire que je veux que ça soit des gens de théâtre qui s'en emparent. Je pense que ce texte a à voir avec le fait ensuite d'être d'abord d'être pris et ensuite d'être donné à un public. Ça a un sens. Alors que peut-être une nouvelle à la première personne du singulier, ça a plus de sens si c'est une très belle expression que vous avez utilisée. Il est plutôt du côté de cet échange silencieux. Enfin, oui, finalement, l'adresse, c'est très important. Ouais.
Alors, justement, tout à l'heure, vous allez voir la subtilité de mon lien. mais quand je vous disais qu'il y a des romans qui mettent un peu les autres dans l'ombre, en tout cas qui brillent beaucoup, le personnage que vous avez choisi pour votre dernier roman, pour Seul Cortège, qui est paru donc, cette année, c'est un personnage qui lui-même est le soleil en tant que tel. Il y a eu plusieurs soleils dans l'histoire, mais en tout cas celui-là, c'en est important, sans doute un originel, dont les rayons s'étendent encore jusqu'à nous par certains aspects ou par certaines choses qu'il a introduites dans l'histoire de l'humanité et qui viennent jusqu'à nous. Il s'agit d'Alexandre le Grand. Alors, on pourra parler, bien sûr, de l'interprétation qu'on peut avoir de la vie d'Alexandre. Mais vous, d'abord, c'est un roman, donc c'est véritablement une évocation littéraire des derniers jours d'Alexandre, de la mort, en fait, le tout dernier instant, et surtout des enjeux que cette mort-là a provoqué parmi ses lieutenants et son cercle proche, mais finalement a totalement déterminé, quand on regarde l'histoire à rebours, tout ce qui suit, jusqu'à Axiome et Rome. Mais ma première question était justement, quand on a affaire à un personnage historique dont bien sûr on n'a pas le droit de réécrire l'histoire, ni de la réviser, comment est-ce que, comme écrivain, on doit à ce point intégrer l'histoire et intégrer les données historiques au point de les quasiment les oublier ou les intégrer tellement qu'on puisse se consacrer au style sans être en train de vouloir livrer une leçon d'histoire? Il y a tout un travail préparatoire qui me semble énorme, peut-être bien plus grand que lorsqu'on écrit un essai historique, parce qu'il y a un deuxième temps qui est l'intégration littéraire.
Oui, je pense, vous avez tout à fait raison. Et ça a été un livre qui a été très difficile à écrire pour moi, celui-là. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des livres qui viennent plus ou moins facilement, dans l'euphorie ou pas. Et celui-là m'a donné beaucoup de fil à retordre. Et maintenant que c'est terminé, j'analyse mieux pourquoi et à quel moment. Et en fait, la difficulté qui m'a fait tourner en bourrique un certain nombre de semaines et de mois, c'était précisément ce point. C'est comment s'affranchir ou pas, dans quelle mesure est-ce qu'on peut, jusqu'à quel point on peut s'affranchir de l'historicité alors qu'on a choisi un sujet et un thème qui est historique. Donc je ne peux pas dire je prends Alexandre le Grand, mais l'histoire ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas possible. Et en même temps, je n'ai pas envie de faire une œuvre, ni un roman historique, ni une biographie d'Alexandre, ni un essai historique. Alors je suis d'accord avec vous, je pense que ce serait plus facile d'écrire un essai historique. Je ne dis pas que c'est facile dans l'absolu, mais juste sur ce point-là, c'est que l'essai historique doit assimiler l'histoire et puis c'est tout, et la rendre ensuite. Moi, j'ai une étape de plus, puisque je suis romancier, c'est que je dois l'assimiler, je dois m'en libérer au sens où introduire dedans de la fiction, de l'imaginaire, du roman, et ensuite le rendre. Et c'est cette étape-là qui est compliquée.
Oui, l'histoire est un outil ici, elle n'est pas l'objectif, comme ce serait effectivement de transmettre l'histoire, qui est l'objectif d'un essai. Néanmoins, bien sûr, c'est une grande histoire, très très solaire, connue, mais pas autant. C'est-à-dire que vous choisissez quasiment, et c'est ça le lien que je faisais, quasiment la partie obscure de la vie d'Alexandre, qui ne manque pas de partie obscure, mais les circonstances de sa mort et ce qui en a découlé, les enjeux profondément obscurs de l'âme humaine qui sont révélés à travers ça, c'est ça qui vous intéresse, vous. Et ça, c'est plutôt le terreau de l'écrivain, justement.
Oui, oui. Et ce qui m'aide par rapport à cette question de comment déplacer ou manipuler un peu l'histoire, l'historique, c'est que Alexandre est un peu particulier par rapport à ça. C'est un personnage, évidemment, qui a existé, donc qui a cette partie-là, qui traîne avec lui le roman historique. Mais en même temps, c'est un personnage qui appartient déjà un petit peu à la légende ou au mythe, parce que depuis le temps, il y a énormément de...
C'était un mythe de son vivant.
C'était déjà un mythe de son vivant. Et ensuite, les gens n'ont pas cessé je ne suis pas le premier ni le plus illustre, de fantasmer sur Alexandre le Grand, de construire à partir d'Alexandre le Grand un autre personnage qui est un deuxième Alexandre le Grand, qui est une espèce de figure mythique, figure du désir, figure de la conquête, figure de la jeunesse, etc. Donc, en fait, c'est presque plus pratique quand même. C'est que je ne suis pas face à une figure historique. Ce n'est pas César. C'est pas Charles de Gaulle, c'est pas Churchill, c'est pas Staline, c'est pas ou même pour des choses plus antiques. C'est un personnage qui échappe déjà à sa propre historicité parce qu'il est déjà un peu mythique. Et ça, c'est plutôt pratique pour moi. C'est qu'il y a des zones d'ombre, il y a des zones de fantasmes déjà qui se sont sédimentées sur ce personnage-là et qui sont plus faciles à manipuler.
Et il y a peu de documents historiques, beaucoup moins que sur tous les autres. Donc il y a aussi, il y en a, mais il y en a infiniment moins que sur plein d'autres, même César qui a écrit lui-même. Alors, oui. Bien sûr qu'il est vraiment à la frontière de la légende et de l'histoire. L'histoire, justement, que vous choisissez, le livre commence, le roman commence, de manière fort épique et une écriture magnifique, très poétique et en même temps très sensitive et sensuelle. On y rentre véritablement par les sens dans cette histoire-là. Et donc le livre commence et c'est une orgie, comme sans doute beaucoup d'autres, mais ce soir-là, Alexandre est plus dans la fièvre que d'habitude et finalement il danse et s'effondre en dansant. Et ça, c'est une partie de l'histoire. Il est à Babylone, il vient de rentrer parce qu'ils sont allés jusqu'aux confins de l'Iphase et de l'Indus en Inde. Et ils sont revenus à cause de ses lieutenants. Et lui, il est à Babylone et cette scène-là a lieu là. Mais en même temps, il y a un autre personnage qui est très important, qui est au moins aussi important que lui dans ce roman-là, et qui est Diptéis, qui est une jeune femme qui, elle, a décidé de... qui est la fille de Darius, le roi perse vaincu par Alexandre, et qui en fait a décidé de se retirer dans les contreforts, elle, de l'Indus, justement, pour vivre loin de l'Empire et puis des enjeux du pouvoir. Et au moment où Alexandre s'effondre au sol, il demande à ce qu'on aille la chercher et à ce qu'elle amène avec elle la Pythie, qui est Gomis.
Oui.
La grand-mère, qui est une sorte de pitié qui voit et qui doit venir dire la vie ou la mort. Déjà, l'ambiance est absolument incroyable. On voit tourner autour, un peu comme des vautours, déjà, tous les lieutenants qui se demandent est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il ne va pas mourir. Et puis, le jeu des ambitions. Alors, c'est très précis comme événement. Et pourquoi est-ce que c'est cet épisode-là qui vous a intéressé? Pourquoi le raconter comme ça à travers à la fois Alexandre et Diptéis, cette jeune femme qui va le sauver? Mais ça, on va en parler après.
Pourquoi cet épisode-là de la mort?
Oui, pourquoi vous avez choisi précisément l'épisode de la mort? qu'est-ce que ça vous permet à vous, comme romancier, de raconter ?
Ben, y a sûrement plein de raisons. Celles qui me viennent là, comme ça, un peu en désordre, c'est que justement, parce que le roman raconte la mort d'Alexandre, qui intervient très vite dans le livre, hein, je ne dévoile pas un grand secret, et continue ensuite à accompagner Alexandre de manière bizarre, puisque même après sa mort, il est là, il est avec nous, avec le lecteur. J'ai pas affaire au Alexandre vivant, donc déjà, par rapport au problème qu'on soulevait tout à l'heure, j'ai plus tellement affaire au Alexandre personnage historique. Les problèmes de chronologie ne viennent plus trop parasiter. Alexandre est mort assez vite dans le livre, et après, voilà, on est ailleurs.
Qu'est-ce qu'en fait ça dépouille ? C'est ça, en fait, voilà, l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'en fait ça...
La raison principale, c'est que je connaissais pas ce petit fait historique réel, à l'époque où j'ai, il y a 10 ans, écrit Le Tigre bleu de l'Euphrate. Mmh. Je l'ai découvert là, en me replongeant un peu dans le matériau que j'avais accumulé. Donc, je vous le raconte très brièvement. À la mort d'Alexandre, ça c'est de la vraie histoire, hein, que je vous dis, à la mort d'Alexandre, donc il est mort à Babylone, il était prévu de constituer un grand cortège funéraire qui devait quitter Babylone et retourner en Macédoine pour que le corps d'Alexandre soit enterré là-bas, et puis soit rendu à sa mère, Olympias, qui était encore en Macédoine. Donc il y a eu un cortège de fabriqués avec tout le faste dû au rang d'Alexandre. Il y avait 64 mules, de l'or partout, des pleureuses. Et puis il faut imaginer ce que c'est qu'un voyage à cette époque-là. Faire Babylone, la Macédoine, ça ne se fait pas en quelques heures ni en quelques jours. C'est des semaines et des semaines de marche. Donc il y a cette espèce de...
Et de bateaux.
Et de tout, oui, il faut traverser aussi la mer, absolument. C'est moi déjà, je trouve ça en soi très fort dramaturgiquement. La lenteur du pas du deuil, cette espèce de manière de laisser le temps aussi que la nouvelle se diffuse dans tout l'Empire, parce qu'entre le moment où il meurt vraiment et le moment où on le sait dans un coin éloigné de Sogdiane, de Bactriane ou de Perse, il faut du temps, quoi. Donc c'est un temps assez beau, d'un point de vue romanesque, ce temps-là du deuil sur un empire immense qui, pour l'époque, c'est même pas un empire, c'est le monde.
Mais c'est le plus grand empire qui ait jamais existé, connaît, après celui de l'Empire ottoman. Ouais, c'est lui qui a tracé ce que va devenir les plus grands empires après. C'est lui qui l'a tracé.
Alors, je finis juste avec le fait réel. Là où ça devient, pour moi, absolument passionnant, c'est que ça s'est pas passé comme prévu, et que effectivement parallèlement à ce temps-là du deuil, du recueillement, de la douleur, il y a eu évidemment simultanément, immédiatement, dès qu'Alexandre est mort, la question de la succession, des rivalités, des complots, de la stratégie. Donc Alexandre était entouré d'une quinzaine on va dire, lieutenants, qui étaient ses généraux, qui étaient tous des jeunes macédoniens de son âge, qui avaient tous fait la totalité de l'aventure avec lui. C'est vraiment une histoire de bande, hein. Et c'est très beau, ça, d'ailleurs. C'est des jeunes gens qui étaient ses frères de lait, ses amis d'enfance. Ces 10 ou 15 jeunes hommes, ils se sont immédiatement posé la question de la succession. Et donc commencent aussi les luttes intestines, les coups bas, les trahisons, les alliances. Et il y a un des généraux d'Alexandre qui s'appelle Ptolémée, qui était un des meilleurs amis d'Alexandre, qui comprend qu'il ne peut pas laisser la dépouille à Perdiccas, qui était une espèce de successeur presque officiel, et que posséder le corps mort d'Alexandre, c'est une manière de devenir symboliquement le successeur. Donc en fait, il organise une attaque militaire du cortège et il prend possession du catafalque. Il le déroute vers l'Égypte, puisque c'est lui, on lui avait donné l'Égypte. Quand j'ai vu et lu cet épisode-là, que je ne connaissais pas, j'ai trouvé que c'était très fort, saisissant, et qu'il y avait là tout mon sujet.
Mais justement, alors pour reprendre ça, en effet, c'est ça, mais ça pose une autre question qui est le malentendu de base qui existe déjà entre lui, bien que ce soit ses frères de lait, ils sont du même rang, ils ont tous étudié avec Aristote, donc ils ont tous pour carte la carte de Ptolémée, celle qui va justement jusqu'à l'Iphase, et au-delà, comme on disait dans les cartes anciennes, c'est le territoire des dragons. Or, Alexandre, le malentendu fondamental, pour moi, c'est très important par rapport au roman, c'est que lui, il a toujours voulu dépasser la limite du connu, la limite du visible. Et ce n'était déjà pas du tout l'ambition de ces généraux. C'est déjà pendant tout le temps de la route, il a une ambition qui est bien plus grande que celle même de la possession ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout dans son... Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'altérité. Mais c'est le premier personnage dans l'histoire qui s'intéresse à l'altérité en tant que telle. C'est pour ça qu'il arrive à battre les Perses. Et c'est le premier qui, contrairement aux Grecs, dit « Les Perses sont une immense civilisation, j'ai vu des choses magnifiques. » Jusque-là, les Grecs les méprisaient. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont raté. Et l'altérité qu'il a amenée, mais aussi cette notion d'être certain que la culture macédonienne en grec, dans la langue grecque, était la plus grande et qu'il fallait qu'il la porte jusqu'aux confins de la civilisation. Ça, c'était son ambition à lui, alors que l'ambition de ses généraux apparaît petite à côté. Dès le départ. Donc je me demande quel est l'héritage, parce que fondamentalement c'est un roman sur l'héritage. Est-ce qu'on hérite de ce qu'on vous donne ou est-ce qu'on hérite justement de ce qu'on ne vous donne pas et de ce qui va rester malgré vous?
Vous posez mille questions toutes passionnantes là. Non mais il y a tout un, c'est tout un nœud justement que je trouve très passionnant parce qu'on n'a pas la réponse. Qu'est-ce qui a fait avancer Alexandre?
Il n'y a pas de réponse. Oui.
Pourquoi est-ce qu'il avançait? Moi je ne sais pas. Je pense que c'est mêlé. Je pense que ça dépend des moments. Je pense que c'était même en une seule et même journée plusieurs raisons différentes. Je pense qu'il y a quand même un Alexandre le Grand qui est un conquérant et qui aime, enfin aime n'est peut-être pas un verbe approprié, mais pour qui battre militairement son ennemi, faire tomber une ville, c'est important, ça faisait partie certainement du moteur quand même. Faut pas, c'est pas juste un rêveur qui voulait voir...
Créer une Alexandrie.
Et, alors ensuite, il y a celui qui crée des villes, oui. Mais c'est vrai, ce que vous dites est vrai, ce qui rend ce personnage attachant, parce que sinon ce serait qu'un conquérant, un destructeur, un militaire génial, ok d'accord, mais enfin, ça rend pas forcément le bonhomme attachant. Ce qui le rend attachant, c'est qu'on sent, et je crois pas qu'on se trompe, on sent qu'il y a en lui un espèce d'appétit qui est plus de l'ordre métaphysique ou mélancolique presque, d'aller voir le bout du bout du bout du monde. Et ça, effectivement, il y a peu de ses lieutenants probablement qui le partageaient. Il avance, bien sûr, pour battre d'abord Darius, puis ensuite les autres. Il a ça en lui, il est très concret, il sait très bien le faire. Et il est génial quand il fait ça, mais il a montré au fil de son parcours que c'est pas ça qu'il... Il n'y avait pas de satisfaction de ce côté-là.
C'est totalement ça.
Oui, c'est surtout la question de la satisfaction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il bat Darius, il aurait très bien pu dire « ça y est, j'ai déjà fait quelque chose d'énorme que personne n'a fait avant moi, je m'arrête ». Or, on sent que ça ne lui procure aucune satisfaction, en tout cas aucune, pas suffisamment pour qu'il s'arrête, et que du coup s'enclenche autre chose qui fait que, je le dis parce que vous ne savez peut-être pas, il n'a pas cessé d'aller vers l'Est, en avançant toujours, c'était vraiment aller voir le bout du monde, puisqu'à l'époque on pensait qu'il y avait un moment où on verrait la fin, quoi. Ça, c'est vrai que c'est sa singularité, c'est ce qui s'arrête à sa mort, puisqu'à sa mort, il va y avoir des problèmes de dynastie, de succession, mais il n'y aura plus, personne ne prend en charge le problème de la course, de la fièvre. Ça meurt avec lui. Ça, c'est ce qui ne peut pas se transmettre. Et c'est ce que Mais je dis juste une chose, c'est que je crois que dans le roman, le problème des lieutenants est effectivement plutôt vu sous le jour de la rivalité, de la guerre intestine, de tout ce que n'est pas Alexandre. Ils ont un peu le mauvais rôle dans mon livre. Je crois qu'ils valent beaucoup mieux que ça. Et surtout, certains d'entre eux, je pense que Héphaïstion était quelqu'un qui, visiblement, aurait pu succéder à Alexandre avec tout ce que ça implique.
Oui, mais alors
justement... Mais il est mort avant lui.
Mais voilà. Et il est non seulement mort avec lui, mais est-ce qu'Alexandre n'est pas mort en perdant son frère, son double, son amant, et en fait, la personne qui est certainement le... Enfin, peut-être le plus compté de toute sa vie, parce qu'il rentre dans une dépression irréversible à la mort d'Héphaïstion, à la mort d'Héphaïstion. Mm-hmm. Mais pour revenir à la question de l'héritage, qui me semble, non seulement dans ce livre-là, parce que si on regarde aussi votre roman précédent, La mort du roi Tsangor, même dans le Soleil d'Escorta, il est question... toujours d'héritage et d'héritage précisément paternel. Dans le cas d'Alexandre, fondamentalement, est-ce que ce qu'on appelle la quête métaphysique, c'est pas le besoin de venger son père? Parce que c'est quand même terrifiant, ce père avili, amoindri, usurpé par la mère, on ne sait même pas si Olympias l'a pas fait tuer finalement, par les Grecs qui l'étaient venus secourir. En tout cas, c'est un père diminué. Et donc, ça, la notion de l'héritage paternelle. Il me semble qu'Alexandre a voulu faire plus que Philippe, mais surtout venger d'une certaine façon son père. Lui-même, son propre fils sera tué. Il n'a pas de descendant, Alexandre. Donc aujourd'hui, on se réclame d'Alexandre. Ce n'est pas direct comme lignée, mettons. Mais ça, c'est une chose. Mais le roi de Sangor, il a des préoccupations qui sont proche de celles qu'on va voir dans la guerre de Troie et qui sont assez comparables. Mais lui choisit de se suicider dans notre roman pour que l'héritage puisse se transmettre et qu'il ne soit pas un frein à cet héritage-là. Dans Le Soleil des Scorta, sur ces générations de Scorta, indirectes aussi, parce que en fait le premier de la lignée, celui dont on parle, est issu d'un viol, pas vraiment un viol, mais on ne sait pas, il y a un doute. Il me semble vraiment que vous êtes beaucoup dans cette thématique de l'héritage et de l'héritage paternel.
Ben oui, je suis un fils, je suis un père, donc c'est des questions qui évidemment seulement me traversent, mais me préoccupent beaucoup. Et
Il y en a beaucoup des pères et des fils romanciers, mais qui ne sont pas forcément.
Oui, c'est vrai.
C'est en faire un terreau littéraire.
Je pense que c'est une très belle question. Moi, une question qui m'émeut beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, qui me préoccupe beaucoup, tout à la fois. Elle est à entrée multiple, et puis surtout, elle est concrète, c'est-à-dire qu'on la pose là dans un décor de roi, d'empire, etc. Mais au fond, on peut se la poser dans la vie, chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on a reçu ? Déjà, c'est une question immense. Qu'est-ce qu'on a reçu ? Qu'est-ce qu'on a créé soi-même ? Mais de qui est-ce qu'on a reçu ce qu'on a reçu ? Déjà, ça, c'est vaste. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va donner ? Est-ce que tout ça se fait en maîtrise parfaite et en conscience parfaite, ou est-ce qu'on peut transmettre à son insu ? Si oui, quel genre de transmission c'est ça, de transmettre sans s'en rendre compte ? Enfin, tout ça m'intéresse énormément. Je pense que c'est une des grandes questions de la chaîne humaine, génération après génération, la question de la transmission, du don, de assumer, pas assumer. Et puis c'est pas forcément, là j'ai l'air de le dire, c'est pas forcément romantique et heureux, hein. Il y a des espèces de trucs terribles qui se trimballent de génération en génération, qui se transmettent et qui sont des espèces de sacs lourds qui tombent sur les épaules de gens qui n'ont rien demandé et qui ne savent pas s'en démêler, qui ne l'identifient même pas avant un certain temps. Donc cette question-là, je veux dire, elle embarrasse des vies, elle en sauve d'autres. Enfin, je la trouve, voilà, je suis d'une famille de psychanalystes, je pense aussi que j'ai beaucoup entendu parler de toutes ces choses-là tout le temps.
Et donc, on va dire que la plupart du temps, c'est pas léger et heureux. Mais en tout cas,
la plupart du temps, parce que vous avez beaucoup, beaucoup dit de choses dans votre question. Alors, je vais pas répondre à tout, mais juste pour vous dire, c'est évident qu'il y a des points communs entre Pour seul cortège et La mort du roi de Sangor, pour une raison très simple, c'est que le petit texte dont on a parlé tout à l'heure, Le tigre bleu de l'Euphrate, qui est déjà sur Alexandre le Grand, a été écrit en même temps que La mort du roi de Sangor. Et que moi, j'ai beaucoup utilisé la figure d'Alexandre le Grand quand j'étais en train d'écrire La mort du roi de Sangor. C'est-à-dire que tout ce qui a été ma manière à moi d'approcher un conquérant, les problématiques du grand conquérant. Est-ce que c'est un monstre ? Est-ce que c'est un type formidable ? Comment est-ce qu'on juge ça ? En fait, c'était parce que j'étais en train de travailler à la fois sur Alexandre et sur la mort du roi de Sangor. Donc oui, c'est présent dans les deux. Et quand vous dites c'est pas heureux, c'est vrai que je prends dans les deux cas, et Alexandre le Grand est symptomatique de ça, c'est la question par rapport à la transmission. Est-ce qu'on... évidemment, transmettre ce qu'on a accumulé est finalement la transmission la plus facile. Encore que, vu le nombre de guerres dans les familles à propos d'héritages qui peuvent même parfois être dérisoires, c'est pas si facile que ça. Mais enfin, au moins, on voit de quoi on parle. On a une voiture, une maison, trois comptes en banque, on compte le nombre d'enfants qu'on a, et puis après, voilà, c'est parti pour ou la guerre ou le partage normal. Ça, d'accord. Les figures dont on parle, que ce soit Alexandre ou la mort du roi de Sangor, c'est des figures qui ont réussi à accumuler plus qu'il ne suffit à une vie, quoi, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la conquête a été tellement énorme que c'est quelque chose qui, s'il est transmis tel quel, peut quand même assez décemment être vu comme une force qui va étouffer le désir de ceux qui le reçoivent. Donc la question se pose, est-ce que je le transmets? Et c'est vrai que dans Le Soleil d'Escorita, il y a cette scène aussi où finalement on décide de brûler le bureau de tabac pour ne pas transmettre ce qu'on a fabriqué, mais dans le rêve ou le fantasme, de détruisant ce qu'on a fait, transmettre juste le désir et la soif de faire. Ce qui est un fantasme, mais qui est une... Moi, j'aimerais bien pouvoir faire ça. C'est-à-dire qu'au fond, je finis par me dire que ce que l'homme devrait chérir de plus précieux dans sa vie, c'est le désir. C'est pas la satisfaction. La satisfaction, on le sait tous, c'est ce après quoi on court, soi-disant, mais enfin, généralement, c'est éphémère. Dès qu'on a eu ce qu'on a obtenu, on dit bon, ça n'était donc que cela. Et puis, on part sur autre chose. Ce qui est beau, c'est le désir. C'est ce qui nous fait justement bouger, batailler, avancer. Et cette chose-là, on aimerait pouvoir la transmettre parce qu'on s'en rend compte, il n'y a rien de plus triste que des vies arrêtées parce qu'elles n'ont pas de désir. Quand vous demandez à un jeune homme ou à une jeune fille qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, et il ne sait pas, et puis il est là, enfin, je veux dire, il y a un âge et puis après ça passe, mais il y a aussi des vies où on sent qu'il n'y en a pas. C'est juste triste de ne pas avoir ça, quoi. Ça, je trouve ça terrifiant. Et donc, mes personnages se posent la question de comment transmettre cette soif, cette belle soif-là, qui est belle, pas au sens où elle est confortable, hein, elle est belle parce qu'elle, moi je crois que c'est elle qui donne du sens à la vie, mais elle peut être terrifiante. Je finis juste avec ça, Alexandre le Grand est la figure du désir en marche, c'est très bien, ça fait une belle phrase à dire comme ça, sauf que c'est un désir qui l'a brûlé et qui l'a tué, parce qu'il est mort à 33 ans et on peut quand même décemment dire qu'il est mort de c'est du burn-out, quoi. Il est mort de fatigue, il est mort d'épuisement. Et je trouve qu'il est beau d'avoir mis au cœur de sa vie ce désir-là, quitte à en pâtir, parce que ça a ruiné ses propres forces. Mais voilà, il y a une très belle phrase dans un poème de Blaise Cendrars qui parle, c'est dans la prose du Transsibérien, il parle d'une violente beauté que je possède et qui me force. Je trouve que c'est une belle définition du désir, c'est une violente beauté qu'on possède mais qui vous force. Et le mot forcer est important, c'est-à-dire que ça vous entraîne, ça vous pousse. Mais en même temps, on ne peut pas s'y soustraire facilement et ça va impliquer un certain nombre de choses qui ne sont pas toutes du côté du confort.
Mais moi, je pense qu'Alexandre est poussé par un soleil noir, lui qui est le soleil, qui le met sur son drapeau, mais il est profondément habité par de la noirceur et toujours par ce doute sur sa propre origine. Et je vais revenir à la phrase centrale que vous mettez au cœur de votre roman, qui est dite par Sisi Gomis. Il est poussé par le doute de la paternité. Sa mère l'élève dans le fait qu'il n'est pas le fils de son père, c'est aussi ivrogne, vaut rien et qu'il a tout raté. Mais il est, lui, le fils d'Achille. Là aussi, le personnage d'Achille, qui lui-même souffre de ne pas avoir de père. Alors, il y a justement ce qu'on disait tout à l'heure, l'héritage, c'est finalement ce qu'on ne sait pas qu'on a laissé. Donc, pas toutes les conquêtes, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, finalement, Diptéis, selon vous, la façon dont vous la mettez en scène, lui permet, au-delà de sa mort, de réaliser son propre rêve à lui. Pris entre deux choses, enfin, il y a une partie que j'interprète, je ne pense pas beaucoup interpréter, le désir de fuir sa mère, parce que Olympias, quand même, le forçait à retourner auprès d'Olympias, même si c'est ça. Sa mère et son royaume, c'est quand même quelqu'un qui a tout fait pour s'en aller de là. Et d'autre part, y retourner, je ne suis pas sûre. Et finalement, Ptolémée, en volant sa dépouille pour des raisons de bénéfices personnels, lui rend un service parce que ça permet à Diptéis, elle, de le prendre et là de réaliser le rêve d'Alexandre, qui est de le porter plus loin et plus loin que le regard de ses yeux. Et dans la mort, il accomplit peut-être cette ambition qu'il avait et qui est de l'ordre, oui, du métaphysique. Et ça, pour moi, vous le dites lorsque vous choisissez de mettre trois phrases principales en exergue. La première, c'est quand sa mère lui écrit « À qui appartiens-tu, Alexandre ?» Or, fondamentalement, le problème de l'héritage se résume à cette question, et se résume à cette question pour n'importe quel peuple. Bien sûr, pour le peuple macédonien, pour beaucoup de raisons, mais pour beaucoup d'autres peuples. À qui appartiens-tu ? Et c'est la question à laquelle Alexandre ne peut pas répondre. Et ne, justement, c'est ça le doute en lui.
À n'importe quel individu aussi, vous parlez de peuple, mais je pense que c'est la question de l'héritage et l'appartenance qu'on peut se poser au niveau individuel aussi.
Oui, voilà, donc de l'identité. Vous posez la question de l'identité, vous choisissez de le faire, vous, dans le roman, à travers aussi les deux phrases terribles de Sissy Gomis qui dit « Il a fini sa vie, mais il est celui qui ne sait pas mourir. » Mais comment mourir quand on a un doute fondamental sur son identité, son appartenance et le sens de sa vie? Donc, ces trois phrases qui sont pour moi au cœur du livre, que vous avez mis au cœur du livre, me semblent peut-être les plus justes que j'ai entendues au sujet d'Alexandre et surtout la façon littéraire. Et pour moi, c'est du domaine de la littérature, beaucoup plus que de l'histoire, parce que l'histoire n'a pas le droit de commencer à faire des interprétations. Pourquoi ces phrases-là? Quel est leur sens profond pour vous? Pourquoi avoir choisi de les mettre là, en fait?
Je réfléchis et pendant ce temps-là, je parle, d'accord? Donc, juste pour border un peu la question, et pour l'assistance et le public, deux petites choses qui viennent nourrir votre question. On n'a jamais retrouvé, je le dis, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, on n'a jamais retrouvé le corps d'Alexandre. Encore aujourd'hui, les archéologues cherchent. Oui. C'est important à savoir.
C'est extraordinaire.
Et moi, ça, j'adore.
Ça nourrit la légende, justement.
Oui,
à qui
oui.
appartiens-tu?
Et je prie pour qu'on ne le retrouve jamais. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense effectivement, comme vous, qu'il n'y aurait probablement rien eu de plus triste qu'un corps d'Alexandre qui serait effectivement revenu en Macédoine et qui aurait effectivement été enterré à la Macédonienne. Triste parce que je pense
revenu
que...
Revenu chez sa mère.
Oui. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre interprétation
enfin,
de la mère.
Enfin, c'est l'objet d'un autre livre.
Voilà. On ne va pas se lancer là-dedans. Les rapports entre lui et sa maman, on ne les connaît pas d'ailleurs. Mais le deuxième petit point que je voulais juste dire, donc le corps n'a jamais été retrouvé. Et effectivement, l'ambition de son vivant d'Alexandre, et ça, c'est aussi, je ne l'ai pas inventé, c'était probablement c'était d'aller vers ce qui aujourd'hui est l'Inde. Chose qu'il n'a pas pu faire puisque c'est vous l'avez dit, l'épisode dit de l'Iphase, c'est quand l'armée d'Alexandre refuse d'aller plus loin parce qu'elle est tellement épuisée, elle en a tellement marre, qu'il y a un moment donné où sur les bords d'un petit confluent qui ne posait aucun problème, c'est pas difficile de l'enjamber, ils ont simplement dit non. Ils se sont arrêtés, ils se sont immobilisés en silence, toute l'armée s'est figée. Alexandre a passé des heures à essayer de les haranguer en disant « mais allez, on continue, on n'a pas fait tout ça pour s'arrêter maintenant, etc. etc. » On a des descriptions comme quoi ça a duré vraiment plusieurs heures, et puis au bout d'un moment, il a dû se résigner. Il s'est agenouillé devant son armée et il a dit « D'accord, on repart en arrière ». Il a fait construire des stèles pour dire « Voilà l'endroit où Alexandre s'est arrêté ». Et à partir de là commence le voyage du retour. Donc, le roman, le mien, justement pour s'affranchir du récit historique, raconte ça, raconte cette histoire. Alors là, qui est de la fiction, Dryptéis, cette femme dont on a... pas parler encore beaucoup alors qu'elle est effectivement absolument essentielle, et celle qui va offrir à Alexandre la possibilité, même une fois mort, de refaire le voyage vers l'Est, d'arriver jusqu'à l'Iphase, de dépasser l'Iphase, de plonger dans l'Inde et de se dissoudre dans ce continent qu'il aurait aimé voir de son vivant. Ça, c'est l'histoire de mon livre, cette espèce de dernier voyage. Et du coup, j'en ai oublié la question à laquelle je devais réfléchir.
Et donc, c'était la question, pourquoi avoir mis ces trois phrases qui résument en fait le tout. À qui appartiens-tu, Alexandre?
À qui appartiens-tu, c'est la réponse la plus facile, parce que c'est pas que moi qui ai mis cette question au cœur de la chose. Elle s'est posée du vivant d'Alexandre. On en vient au point passionnant que vous avez souligné tout à l'heure, c'est qu'effectivement, Alexandre avait cette particularité d'avancer, de battre ses ennemis, et au moment où il les battait le lendemain, quasiment, ou quelques jours plus tard, de leur proposer de se relever, d'intégrer son armée pour continuer à avancer. Il n'a pas cessé de faire ça. Il a fait ça avec les Perses, il a fait ça ensuite avec les autres peuples qu'il a rencontrés. À chaque fois, il les intégrait à son armée, et puis il continuait avec eux à aller se battre contre la peuplade d'après. Ce qui ne s'est pas fait sans problème vis-à-vis des Macédoniens, qui au bout d'un moment ont fini par se demander, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça au fond? Est-ce que c'est pour... C'est pourquoi? Parce que nous, on croyait qu'on était parti pour battre Darius, ramasser les trésors et revenir avec gloire au pays. Et Alexandre ne permet pas ce retour avec les poches pleines d'or. Il demande autre chose. Et donc, ils ont posé eux-mêmes, là je parle de l'histoire, la question, ils ne l'ont peut-être pas posée comme ça, à qui appartiens-tu ? Mais c'est la même question. Il y a eu des problèmes, il y a eu des trahisons, il y a eu des complots. À un moment, les Macédoniens en avaient marre et ont dit non. D'autant plus qu'Alexandre a été tellement loin dans ce rêve d'une nouvelle civilisation qu'il voulait créer, lui qui serait un mixte.
C'est un mondialiste,
Perses.
C'est le premier mondialiste de l'histoire.
C'est le premier à faire ça. Oui. Qu'il a exigé de porter les tuniques de Darius, il a demandé à ce... Il y a un épisode très intéressant parce qu'il est très concret. Il a exigé qu'on le salue comme on saluait les grands rois perses, c'est-à-dire qu'il fallait s'agenouiller devant lui. Or, pour les Macédoniens, qui ne saluent pas en s'agenouillant, c'était insultant et c'était insupportable. Les Macédoniens se saluaient debout,
c'est un signe
comme
de soumission.
Voilà. Donc ça a créé des révoltes, ça a créé des dissensions très fortes. Et ça pose la question de... Alors, est-ce que tu deviens Macédonien ? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer, là ? Donc ça, c'est vrai que je voulais que ça soit dans le livre, parce que ça me semble être justement passionnant, parce que c'est le point où il quitte ce qu'il est, effectivement. Dans un premier temps, la conquête d'Alexandre, c'est une conquête de Macédoniens. Il se bat contre le vieil ennemi, la Perse qu'on connaît, et il y va avec le désir de revanche, il arrive à la battre, et puis à partir de là, ça aurait dû ou pu s'arrêter, et lui, il continue, et là, il change, et il se quitte lui-même. Il quitte le Macédonien qu'il est, et je trouve ça à la fois passionnant et problématique.
Mais c'est comme tout personnage qui s'en va justement droit devant. Mais oui. Ce que moi je trouve intéressant, c'est que vous le mettez, cette phrase-là, dans la bouche de sa mère, alors qu'il vient de tuer son frère, parce qu'Alexandre tue son frère. Et donc il est dans une...
Son frère de lait.
Son frère de lait, mais il est élevé avec lui. Donc il coupe tout ce qui le fait. Justement, c'est un personnage qui s'en va comme ça, dans une poursuite que vous avez décrite comme celle du désir, mais il coupe tout ce à quoi il appartient au fur et à mesure. À chaque fois qu'il coupe, il coupe, il coupe. Donc, est-ce que ça n'est pas une allégorie aussi de l'être humain ? Parce qu'on ne peut pas... Il faut devenir et non pas demeurer dans la vie. Et lui, il est une sorte d'allégorie de ça.
Oui, je suis d'accord. C'est tout à fait. Et c'est ce qui le rend, je trouve, encore une fois, attachant. C'est là où il me fascine. C'est qu'il y a quelque chose en lui, alors, qui est le socle commun avec Dryptéis dans le livre. C'est que, alors qu'ils n'ont pas du tout la même histoire et par des voies tout à fait différentes, je crois qu'ils ont tous les deux à voir avec un désir de dépouillement. Alors Alexandre, ça se fait justement sur cette forme-là, il se dépouille comme un serpent avec ses mues des différentes identités qu'il a eues. Il quitte le Macédonien, il a été longtemps le fils de Philippe, il s'affranchit de ça, il a été longtemps le jeune homme fou, machin, il s'affranchit de ça. Il y a une manière de se quitter sans cesse et d'être toujours quelque chose de nouveau, d'inconnu. Alors est-ce que c'est un fantasme fou ou est-ce que c'est une réalité ? Je ne sais pas. Je pense qu'il a réussi à le faire quand même d'une certaine manière, de manière assez profonde. Et Dryptéis est aussi dans ce désir de dépouillement. Elle, par méfiance vis-à-vis du monde et de l'histoire,
se retire.
Puisqu'elle sait que l'histoire a toujours frappé à sa porte pour venir la mettre à mal. Donc il y a un désir d'éloignement et de dissolution pour être tranquille.
Et la deuxième phrase, justement, il ne sait pas mourir. Qu'est-ce que ça veut dire, fondamentalement ? Quand Sisygomis dit « sa vie est finie, mais il est l'homme qui ne sait pas mourir ». Parce que voilà un dépouillement qu'il ne veut pas faire. Il ne veut pas lâcher cet ultime dépouillement-là.
Oui, c'est probablement un geste d'orgueil, mais que moi je trouve très beau. Le désir paradoxal de ne pas vouloir... Alors là, je parle de l'Alexandre que j'ai dans la tête. Hein. Le bonhomme n'a peut-être pas du tout été comme ça. Mais mon Alexandre à moi, il ne veut pas... du faste des cérémonies de la postérité organisée par les hommes, c'est-à-dire du marbre, de l'espèce de culte de la personnalité qui irait derrière lui, ça il n'en veut pas. Mais en revanche, il n'est pas non plus prêt à tout lâcher, effectivement, il veut une espèce d'immortalité bien plus forte que les grands tombeaux, il veut ne jamais mourir, et il a réussi, puisque je vous parle de lui, et nous parlons de lui depuis une heure, et voilà, non mais je pense vraiment qu'il a réussi, il s'est affranchi de ça, Et il n'est pas mort, enfin, il n'est pas mort. Si, il est mort, mais il est présent.
Et en fait, tellement que, comme on n'a pas retrouvé son corps, en vérité, il n'appartient à personne et à tout le monde. Même dans ce qui est devenu, effectivement, cette légende. Il y en a d'autres dans l'histoire. Mmh. Mais... Alors, parlons de Dyptéis. Pourquoi avoir donné à cette très jeune femme qui a une sagesse... une sorte de vieille sagesse, bien malgré qu'elle soit très jeune, qui a subi une violence inouïe de la part d'Alexandre, puisque c'est la fille de Darius, donc il tue son père, elle-même a cet enfant qu'elle a, pour lequel elle craint, etc. Et elle se retire avec des prêtres, donc dans une retraite à la fois méditative, mais surtout très très loin des fastes. Elle vit très très simplement. Et Alexandre l'envoie chercher. Elle se méfie. Finalement, elle se rend compte qu'elle a, elle aussi, presque un rôle métaphysique à jouer. Parce que non seulement elle doit amener la pitié, mais en plus, elle va jouer... alors là, ça, c'est toute la partie romanesque. Vous avez désiré, à propos de désir, vous avez désiré qu'Alexandre fût sauvé par cette jeune femme-là, qui aurait pu être son ennemi, mais qui lui pardonne et en fait le sauve d'une certaine façon. C'est très, très beau. Cette poursuite-là, avec toute la partie sur le cortège, et puis tout... C'est effectivement très théâtral, mais en même temps, c'est une épopée épique, formidablement puissante.
Mais tant mieux, c'est que c'est... Mais que dira ça non, mais tant mieux. Je voulais d'une relation... ça m'intéressait, la relation possible entre Alexandre et Dryptéis, parce que ça ne peut pas être une relation amoureuse, parce que ça serait complètement déplacé, puis c'est impossible, je veux dire, vu ce qu'ils sont chacun, on ne parle pas de ça, on ne parle pas d'une histoire d'amour entre Alexandre et Dryptéis, ce n'est pas ça le problème. En même temps, je pense que le livre essaye de construire une relation qui est de l'ordre de la fidélité, qui est de l'ordre de la loyauté et de l'accompagnement, sans être amoureuse. Et ce lien-là me plaisait bien. Alors effectivement, mais Dryptéis, c'est un personnage qui a existé et qui est fascinant. On ne sait pas grand-chose d'elle, parce que notamment après la mort d'Alexandre, on perd un peu sa trace. Mais ce qu'on sait suffit à la rendre très forte d'un point de vue romanesque. Elle était la fille de Darius. Je raconte toujours les scènes historiques parce que je les trouve tellement fortes. Il n'y a plus rien à faire pour le romancier que je suis. Dryptéis a été convoquée par Darius, son papa, le jour de la grande bataille d'Issos sur le champ de bataille, parce qu'il voulait qu'elle voie, elle, sa sœur, sa mère, toute la petite famille était là, parce qu'elle devait voir la victoire de Darius. Sauf que c'est l'inverse qu'elle a vu. Elle a vu en une demi-journée Alexandre percer les flancs de l'armée perse, tout renverser,
tuer
tout le monde et mettre en fuite son père, ce qui était vraiment le comble de la lâcheté. Darius a piqué les flancs de son cheval et est parti en laissant derrière lui sa femme et ses enfants. Ce qui, à l'époque, a été vécu comme quelque chose de vraiment d'une immense lâcheté.
Et Alexandre le poursuit.
Alexandre essaye de le poursuivre. Non, mais c'est comme un film, hein. Il faut s'imaginer cette scène où Darius est à cheval au galop et Alexandre derrière en essayant de le rattraper. Sauf que comme Darius n'a pas pris part à la bataille, le cheval est plus frais et donc il arrive à s'en aller. La question, moi j'imagine cette jeune femme, cette jeune fille, presque sûrement d'ailleurs, parce qu'à l'époque on se mariait vite. Donc c'est sûrement une très jeune fille qui voit tout d'un coup... cet homme qui a encore l'armure pleine de sang, qui s'est battu pendant des heures, qui revient, qui descend de son cheval, qui est blond, ce qui pour une Perse devait aussi, ce qui a beaucoup joué dans la fascination qu'Alexandre exerçait sur les peuples qu'il a rencontrés. Oui. Et là, on ne sait pas s'il va la décapiter, la livrer à la vindicte de ses hommes pour qu'il la viole. On ne sait pas ce qu'il va faire. Et il s'agenouille devant la femme de Darius et les enfants de Darius. Alors là naît aussi le mythe du point de vue des Perses, qui ont complètement mythifié Alexandre dans un deuxième temps. J'en parlais avec un autre prix Goncourt qui est un ami et qui s'appelle Atik Raimi, et qui me disait que lui, en tant que Perse, Alexandre, c'est Iskandar, et il est très présent dans les textes perses. C'est une figure mythologique. C'est très beau, ce renversement.
Oui, oui.
Le début du mythe pour les Perses, il naît là. Il naît quand Alexandre s'agenouille devant... Donc voilà, il y a ce personnage de Dryptéis qui vit tout ça, et qui vit... Je finis là, je m'emporte, parce que moi, je peux en parler pendant des heures. Hein. Mais alors, qui vit cette deuxième chose des années plus tard, quand Alexandre est pris par cette espèce de rêve de créer une nouvelle civilisation, hein, il n'y a pas d'autre mot, il a ce geste fou de dire, c'est très bien, moi je vais épouser la fille de Darius, donc Statera, qui était la fille aînée, dans un espèce de geste politique comme ça pour dire réconciliation des peuples, etc. Ça, il y a des tas de rois de France qui ont fait ça, avec l'Angleterre, avec d'autres pays. C'est vraiment une alliance politique. Sauf que lui, il va plus loin, il dit, non seulement moi je vais épouser Statera, mais il y a 10 000 Macédoniens qui vont épouser 10 000 Perses, et puis on va faire ça la même nuit, et ça s'appellera les noces de Suse, ce qui a eu lieu à Suse. Et donc Dryptéis, on va la chercher et on lui demande, enfin on lui demande rien du tout, on l'a fait épouser le fameux Héphaïstion qui était le plus proche compagnon d'Alexandre. Donc elle redevient une figure de premier plan. Je trouve que son destin est absolument vertigineux. Je me demande ce qui a pu la traverser en termes de sentiments. Et ce qui m'intéresse, c'est que justement, les sentiments, c'est certainement la dernière chose qu'on a dû lui demander d'avoir dans tout ça. Je veux dire, elle n'existe jamais. Elle est une fonction. Elle a d'abord été la descendante des Perses. Enfin, les sentiments de Dryptéis, c'est peu importe.
Et c'est très exactement ce que vous lui donnez. Et c'est très exactement ce que permet le roman. Parce que on la voit, je veux dire, on suit, le lecteur suit Dryptéis de l'intérieur, avec ses pensées, avec ses doutes, avec tout ce qu'elle peut à la fois désirer, penser, et les sentiments contradictoires qu'elle a. Là, pour le coup, elle existe, je vous l'ai dit, pour moi, au moins autant que lui, sinon plus dans ce roman-là, véritablement.
Ah oui, mais pour moi, c'est un chant à deux voix, et comme lui est mort, c'est sa voix, elle, qui est quand même la plus forte, et puis c'est ce qu'elle fait, elle, qui donne naissance au livre. C'est-à-dire que je suis parti du principe que, justement, il ne fallait pas se poser la question des sentiments. Est-ce qu'elle l'aime? Est-ce qu'elle le déteste? Est-ce qu'elle lui en veut? Tout ça ne m'intéresse pas parce que ça tirerait le récit du côté de la nature psychologique de leur regard l'un sur l'autre. Ça ne m'intéressait pas tellement. Je suis parti du principe que, quels que soient les sentiments qu'elle porte sur cet homme, il y a une chose qui est incontestable, c'est que c'est le grand événement de sa vie à elle. Je veux dire, comment Alexandre a déboulé dans sa vie, c'est le grand événement de son existence. Et elle le sait, elle le comprend et elle l'accepte.
Mais ils ont un point commun, qu'ils ont vu tous les deux leur famille, dans le cas de Dryptéis, puisque son père, en plus, est un lâche qui s'enfuit. Elle n'a pas vu son père tué, mais sa mère et sa famille, et lui, son père. Parce que c'est quand Philippe arrive chez les Grecs, et puis que finalement, il n'a même pas le temps d'aller le sauver, qu'il se fait quasiment tuer sous ses yeux. Pour moi, c'est pour aller plus vite là-dessus. Ils sont, si on peut dire, dame-sœur, ou je ne sais pas, ou sœur d'âme, ou frère. Et ça, c'est le... Enfin, en tout cas, moi, tel que je l'ai lu, c'est le rêve d'Alexandre qui est d'une certaine façon incarné par eux deux. Et cette espèce de fratrie d'âme qu'ils ont, parce que le rêve d'Alexandre, c'est ça, c'est la nouvelle humanité, ce qui l'intéresse. Il faut bien qu'il y ait un vainqueur pour qu'ensuite il y ait des réconciliations. C'est un peu comme ça qu'il voit ça, avec le fait d'être sûr de détenir vraiment la culture et la civilisation la plus grande, qui est la civilisation macédonienne et la langue grecque. Bon, mais ça, c'est pas grave, et tout le monde est gentil et tout le monde va vivre ensemble. Ça, c'est lui. Évidemment, il faut attendre. Mais l'autre question par rapport à eux, et c'est une des dernières questions que je vous poserai, c'est de revenir à vos propres préoccupations originelles, je dirais même dans votre travail à l'université. Vous avez choisi de travailler sur le conflit et la guerre. Et on voit ça qui se développe dans plusieurs de vos romans, notamment La mort du roi de Sangor, c'est sûr. Ici, bien sûr, chez le soleil d'Iscorta, ça n'est pas vraiment un champ de bataille. Mais oui, il y a des batailles, des morts, et bien entendu que c'est une famille qui n'est pas une famille aussi célèbre que celle d'Alexandre. Mais les enjeux humains sont exactement les mêmes. Alors, pourquoi est-ce que cette notion de la guerre entre les peuples est pour vous tellement inspiratrice et fondatrice? Qu'est-ce que ça vous permet et pourquoi ça vous a tellement préoccupé?
C'est pas, honnêtement, c'est pas tellement la guerre en soi que je ne connais pas et que je... Mais Alors, quand j'étais jeune, l'étude, c'était le conflit. Le conflit, c'est beaucoup de choses. Le conflit, ça peut être entre deux personnes sur un petit détail. C'est pas forcément la guerre armée et les grenades et les kalachnikovs tout de suite, hein. Ça peut être des tas de choses feutrées. Le conflit, je boucle ça parce que c'est vrai que j'ai travaillé là-dessus, mais c'est parce que c'est un des moteurs dramaturgiques importants. Généralement, dans une pièce de théâtre, il y a un conflit. Donc, c'est une manière de travailler en fait sur le squelette des pièces et sur la dramaturgie. Comment ça avance, pourquoi ça avance, quels sont les obstacles. C'est une des portes possibles pour avoir à mettre à jour et analyser les structures de pièces. Bon, je n'élude pas la question parce que effectivement, dans des tas de mes livres, il y a des guerres. Alors, ben, je me suis posé la question, pourquoi ça me trottait tant que ça dans la
La
tête?
rencontre des contraires, en fait, qu'on trouve dans vos livres. C'est vrai que j'ai dit le mot guerre, j'aurais pas dû. C'est la notion du choc des opposés. Et forcément, il y en a un qui gagne et l'autre qui perd. Mais outre le fait que c'est évidemment un ressort romanesque.
Il y a le côté ressort romanesque sous le signe de l'énergie, parce qu'il y a quand même de l'énergie dans la guerre, et moi, c'est vrai que ça me permet de développer une écriture que j'espère aussi énergique. J'utilise ce mot qui est peut-être un peu inapproprié par rapport à l'écriture, mais j'aime bien quand c'est tendu, quand c'est chauffé un petit peu. Donc voilà. La raison principale, à mon avis, c'est que dans la guerre, mais pas uniquement dans la guerre comme dans une grande catastrophe naturelle, et j'ai écrit sur ça, ou comme dans le thème de
Oui, c'est votre roman
l'émigration.
Ouragan qui est votre précédent.
Oui, ça, toutes ces choses ont en commun de prendre des personnages et de les dénuder de leur quotidiennité, de leur vie construite. C'est-à-dire que quand on a des personnages qui sont en guerre, ou quand on a des personnages qui subissent un cyclone ou un tremblement de terre, il n'est plus question de profession, il n'est plus question de banalité de la vie, de savoir ce qu'on va faire. Les personnages sont réduits à autre chose, une identité peut-être plus profonde, un certain nombre de choix fondamentaux. Et moi, cette chose-là m'intéresse bien et correspond plus à ma palette d'écriture, parce que j'ai beaucoup de mal à écrire sur la vie telle qu'elle va. Et si je devais écrire aujourd'hui un livre dans lequel il n'y ait ni guerre, ni... En fait, c'est pas tellement la guerre, c'est aucun événement exceptionnel qui vienne transformer la vie des gens. Je devrais donc décrire la vie des gens. C'est-à-dire que mes personnages auraient une profession, auraient un nom, une identité, des collègues de bureau, des amis, des cousins qui débarquent à la maison, toutes ces choses-là dont je ne sais pas quoi faire dans un livre parce que je ne sais pas comment on raconte ça de manière intéressante. Alors, effectivement, les grands bouleversements dans lesquels je plonge mes personnages, alors il y a la guerre, mais il y en a d'autres, ça permet d'écarter tout ça et de faire qu'ils sont eux-mêmes dans un processus de changement par rapport à ce qu'ils ont espéré, par rapport à ce qu'ils ont construit. Et ça, j'aime bien.
Mais l'envers de cette question, c'était que dans vos... Enfin, j'ai pas lu tous vos romans, mais même dans celui-là, déjà, pour parler, mais c'est vrai, dans La mort du roi de Zangor, celui qui gagne, ceux qui gagnent, entre guillemets, c'est pas les guerriers. Parce que Zangor, c'est celui qui refuse de se battre, puis qui se suicide, et celle qui, véritablement, est le personnage qui gagne, entre guillemets, j'ose pas dire qui gagne, mais en tout cas qui accomplit quelque chose de véritablement positif, c'est Dipteis. C'est les deux personnages qui, dans ces deux romans-là, en tout cas, c'est précisément les personnages qui ont refusé de se battre, parce que leur vérité est ailleurs. Et la
Oui.
transmission, justement, qu'ils font est beaucoup plus fondamentale, et elle ne se fait pas au niveau d'un héritage de premier degré, elle est bien plus éternelle et...
Oui, les personnages qui se sauvent, c'était comme ça dans mon tout premier roman qui s'appelle Cri et qui est sur la guerre 14-18, où les personnages qui se sauvent, entre guillemets, c'est-à-dire qui tout d'un coup arrivent à échapper à cette espèce de processus qui va les broyer, c'est les personnages qui arrivent à attraper un peu de sens. Et le sens, ils vont le chercher effectivement ailleurs que dans l'enchaînement des batailles ou dans le. Donc, c'est souvent des personnages qui effectivement finissent par prendre la tangente, s'éloigner du conflit ou en tout cas le vivre autrement. Surtout, alors, puisqu'on parle de la mort du roi de son corps, c'est vrai que l'envie que j'avais à travers la guerre, c'était pas de, c'était de décrire cette espèce de mécanisme qui est que toute guerre a un objet au début. On se bat pour une très jolie jeune femme parce qu'il y a deux rivaux, on se bat pour de l'or, on se bat pour du pétrole, on se bat pour des tas de choses. Ça crée un conflit qui démarre, et puis à partir du moment où il démarre, à partir du premier jour et de la première bataille, il y a un mort. Ou deux, ou trois. À partir du moment où il y a un mort, le lendemain, on y retourne, toujours pour l'or, pour le pétrole, pour la jeune fille, mais aussi pour venger celui qui est tombé la veille. Et plus le conflit avance, et plus il y a de morts, et plus donc il y a une espèce de deuxième cause qui vient et qui finit par prendre le pas sur l'origine du conflit, et qui est simplement la vengeance. Se met en place un mécanisme qui roule en roue libre. Le conflit israélo-palestinien est une illustration, à mon avis, assez malheureusement parfaite de ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps de conflit, l'objet initial du conflit a été évacué, parce que, un, plus personne ne s'en souvient, et deux, c'est plus l'enjeu. Et finalement, il y a une autre roue qui s'est mise en place et qui, elle, n'a besoin de rien d'autre que du conflit et qui est la vengeance. C'est ça que je voulais décrire dans La mort du roi de son corps. Alors, effectivement, il y a quelques personnages qui ont... la clairvoyance de voir cette chose-là et de se dire donc la seule solution c'est de se sauver, mais pas par pacifisme, mais simplement pour ne pas nourrir la roue, quoi. Donc Tsongor le fait à sa manière en se suicidant, et Suba le fait, au début il le vit comme une punition parce qu'il est écarté du conflit par son père qui dit il faut qu'il y en ait au moins un qui survive, donc je te charge d'une mission quasi impossible qui va te tenir écarté de tout ça pendant des années, et en fait c'est une manière de le sauver en l'éloignant.
Oui. Alors, l'autre chose qui est une caractéristique littéraire, c'est que ce sont des romans épiques avec des sujets ô combien universels, collectifs, toute une dimension métaphysique qui peut s'adapter aussi bien et se comprendre et s'interpréter, j'allais dire, sur le plan collectif qu'individuel. Et d'habitude, on traite ce genre de sujet avec une sorte de ronronnement littéraire par des grands romans qui vont faire 700 pages. Ou... Quand on parle du roman épique, on parle en termes de nombre de pages. Et on est parti pour écrire l'Iliade et l'Odyssée ou la chanson de Roland. Ou... Et vous, c'est vraiment fascinant parce que vous prenez l'effet inverse. Ça reste bien sûr épique dans l'écriture. Mais vous cherchez la concision et le zoom plutôt que l'emphase. Comment avez-vous pensé à ça ?
Mais je suis navré de faire ça. Moi, j'aimerais écrire un livre de 600 pages. Ça fait déjà 4 ou 5 romans que j'aimerais écrire un livre de 600 pages.
Je suis déçue, alors, vraiment.
Et à chaque fois, je me dis, avec ce sujet-là, tu ne peux pas faire moins de 300 pages. J'en étais persuadé qu'Ouragan serait un livre énorme. J'étais persuadé que celui-là allait être un très gros livre, et au bout d'un moment, effectivement, la manière dont j'organise le travail consiste à retrancher, à couper et à aller à l'os, quoi.
Ben oui, mais finalement, c'est intéressant aussi, parce enfin, l'effet que ça fait
mais je l'assume
sur le plan
au bout d'un
personnel,
moment.
C'est... Ça fait un zoom, en effet, sur quelque chose. Du coup, on les voit, parce que bien entendu, si c'est une très, très grande épopée, Max Gallo a écrit un Alexandre le Grand en 3 fois 600 ou 700 pages. Mais il y a de quoi faire avec lui. Mais c'est autre chose. Son propos est complètement différent. C'est même pas pour le critiquer.
Mais je crois qu'il y a... Là, je rigole, parce qu'avec cette espèce de fantasme du gros livre, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'intéresse du côté de l'intensité.
Oui.
Et que j'ai envie... Je ne sais pas si j'y parviens, mais j'aurais envie que ce soit tout le temps intense, et qu'il n'y ait pas 30 pages pour arriver à une scène intense, qu'il y ait 30 pages intenses. Voilà, ça, c'est ça que j'ai envie de. C'est après ça que je cours. Alors, il faudrait trouver le moyen de faire que, au lieu que ça soit 30 pages, ça soit 600 pages intenses. Ça serait vraiment bien. Mais j'y travaille. Je ne vais pas lâcher prise. Mais alors, sur le gros plan.
C'est un zoom intérieur. Parce que
je vous réponds sur Pour Seul Cortège. Parce que Pour Seul Cortège, le gros plan me sauve du roman historique. Si on élargit trop le champ, on se retrouve avec le décorum, les tapisseries, les jardins suspendus, les éléphants, la baignoire avec du lait de chamelle. Et on a tout ce qu'un très vieil ami qui maintenant n'est plus là, mais qui justement un de ceux qui m'avait... formé et qui était un vieux metteur en scène et comédien me disait, quand je lui donnais à lire des textes comme La mort du roi de Songor ou Quand le tigre bleu de l'Euphrate, il me disait, quand est-ce que tu arrêteras avec tes mésopotamiades? Cette manière de... Et j'ai toujours gardé à l'esprit ça, c'est-à-dire que je n'étais pas d'accord avec lui parce que je trouve que les textes quand même méritaient. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas faire de mésopotamiades, c'est-à-dire que tout d'un coup, les arabesques, c'est pas ça qui est intéressant. Alors, ma solution à moi, c'est de se dire, je ne les lâche pas et on ne va pas voir les trois plans de décor formidables qui seraient un risque de péplum, quoi, en fait, pour le dire un peu trivialement. Oui. Rester sur la situation ou sur l'intériorité, c'est essayer de se préserver de ça, oui.
Bien oui, il me semblait que c'était une caractéristique assez rare pour être louable. Et voilà que, en fait, vous pensez que c'est un échec, c'est un comble.
Non, mais c'est bien, ça laisse des choses à... Non, mais sur le gros livre, j'aimerais, mais pour une raison, je ne vais pas vous parler de mes envies, mais c'est parce que j'aimerais bien créer avec le lecteur... C'est quand même particulier quand on est plongé dans un gros livre. Là, je vous parle en tant que lecteur et vous le savez autant que moi. Il y a un plaisir particulier de ça, de se dire celui-là, il va m'accompagner pas pendant 10 jours, il va m'accompagner pendant 2 mois. Et quand ça marche...
Deux mois, c'est la Bible.
Ah non, mais moi, je suis un lecteur très lent. Donc, Dostoïevski, ça me fait 2 mois. Hein.
Oui, oui.
Être dans ces plongées-là longues, c'est quand même un plaisir particulier et très fort. Donc, j'aimerais... un jour, m'y confronter.
Mais néanmoins, un livre, ça reste du contenu. Alors, ce n'est pas un nombre de pages.
Mais ça sera formidable, vous verrez.
mais j'en doute pas une seconde, alors. J'aurais aimé vous demander, pour finir cette soirée, et en tout cas passer la parole à notre public, vous demander de lire un extrait. Parce que là, on parle du style, on parle de l'écriture, on parle de la sensualité, du gros plan. Mais ça serait bien d'en avoir véritablement un exemple. Si vous mettez juste en contexte à quel moment...
Alors, je vais vous lire un extrait qui concerne Dryptéis, puisqu'on a moins parlé d'elle que d'Alexandre. Qu'est-ce qu'il y a besoin de savoir? On est page 45, ça vous en fichez, mais elle a justement été convoquée par les hommes qui sont venus la chercher dans son temple. On lui a dit qu'Alexandre était à l'agonie et qu'il fallait qu'elle revienne à Babylone, et elle vient chercher sa grand-mère, donc... Zizigambis, qui est resté à Persépolis. Il faut juste savoir que Alexandre, ça c'est un fait historique, a fait brûler Persépolis dans un geste extrêmement ambivalent, puisqu'il a ordonné qu'on brûle cette ville qui était vraiment le joyau de la Perse, probablement pour justement satisfaire les Macédoniens qui voulaient se venger de l'histoire, de tous ces moments où les Perses étaient venus en Grèce et avaient... voilà, donc il a concédé ce geste-là, et en fait, visiblement, il l'a regretté, et à peine ordonné, il l'a regretté. Donc le sac et l'incendie de Persépolis est resté pour lui comme une chose plantée dans son cœur, et voilà. Donc Dryptéis revient à Persépolis, et Persépolis ne s'est jamais remise du sac. C'est resté une ville fantôme par la suite. Et pardon, et elle a un enfant, effectivement. On l'a dit. Elle a un enfant.
Elle a eu avec justement Héphaïstion, qui est mort et qui était le meilleur ami.
On l'a eu avec on ne sait pas qui. Elle a voulu faire un enfant avec personne, c'est-à-dire qu'il y a un homme.
Moi, c'est l'enfant d'Héphaïstion.
Non, c'est après la mort d'Héphaïstion. C'est un enfant comme ça, justement pour avoir au moins une chose, un être humain, pour avoir un fils qui n'appartiendrait pas à tout ça, l'empire, la succession, la transmission. Mais la condition sine qua non pour que ça soit possible, c'est qu'il reste caché des yeux du monde. Donc elle est là, dans l'extrait que je vous lirai par la suite, dans la contradiction, enfin dans le questionnement. Si elle ramène son fils à Babylone, tout le monde va voir qu'il existe, tout le monde va savoir que Dryptéis est un descendant, et donc tous les yeux de l'empire vont être braqués sur cet enfant, avec le risque que ça comporte. Donc voilà. Lorsqu'elle entre dans Persépolis, au pas lent de son cheval, ce qu'elle voit autour d'elle est une ville morte, à moitié recouverte de mousse et d'herbes folles. Tout a changé. Des arbres ont poussé dans les ruines des palais. Des chèvres paissent au milieu des rues. Partout, des chiens sauvages. Les oiseaux ont trouvé refuge dans les maisons. Ils passent sans encombre par les toits écroulés. Elle ne reconnaît rien. Ils déambulent un temps, cherchent leur chemin, reviennent en arrière. Cela fait plus de 7 ans qu'elle a quitté Persépolis. Seules vivent ici quelques familles de bergers qui ont repris possession de la ville. Elle descend alors de cheval et demande à la servante de lui redonner l'enfant. Elle veut marcher avec lui dans les rues silencieuses de la ville pour qu'il s'imprègne de ce lieu. Elle fait quelques pas, laissant derrière elle le cortège à l'arrêt. L'enfant est calme. Il regarde autour de lui. Les souvenirs remontent en elle. Elle revoit les servantes, la réveillée en pleine nuit. Elle entend leur voix. « Il faut partir, » disait-elle. « Il n'y a plus une minute à perdre. » Sa sœur était déjà prête. Alexandre avait ordonné qu'elle rejoigne toutes deux Babylone. « Il faut partir. » Et déjà, les chevaux étaient préparés et les affaires mises dans les malles. « Arrêtez !» Elle se souvient très bien du visage de ses servantes lorsqu'elle prononça cette phrase. Elles la regardèrent avec terreur. Elle avait demandé à ce qu'on la laisse passer. Les femmes de sa suite ne voulaient pas. Elle parlait de danger et répétait « Statera vous attend !» Mais elle avait tenu bon et les avait laissées là, à leur mine défaite, pour descendre dans les rues. Elle se souvient du calme qui émanait au début de la ville, puis, d'un coup, des premiers cris qui avaient retenti. Elle serre son enfant contre elle, comme pour le protéger des souvenirs qui l'assaillent. De part et d'autre, ils allumaient des torches et mettaient le feu au palais. La fumée montait. Les premiers habitants sortaient de chez eux, tirés de leur sommeil par l'odeur. Ils voulaient se précipiter sur les flammes, faire une longue chaîne, s'organiser, mais les soldats grecs étaient là et les en empêchaient. Ordre d'Alexandre. Elle se souvient encore de ces mots. D'une place à l'autre, de ruelle en ruelle, partout, elle les entendait toujours répéter sur le même ton. Ordre d'Alexandre. Et les toits s'effondraient. Ordre d'Alexandre. Les flammes léchaient les façades millénaires des palais. Les peintures cloquaient. Les bœufs ailés se tordaient. Ordre d'Alexandre. Tout l'empire brûlait. Elle est là aujourd'hui, à nouveau. Et c'est lui encore qui l'exige. Ordre d'Alexandre. Elle est tirée de son refuge pour plonger à nouveau dans le tourment de l'Empire. Elle revoit les flammes qui montaient de partout. Les femmes et les enfants sortaient de chez eux, emportant ce qu'ils pouvaient, suppliant leur dieu d'arrêter l'incendie. Elle marchait, elle. Elle voulait tout voir. Elle entendait sa ville gémir. Dans certaines rues, des palais entiers s'affaissaient, engloutissant les hommes et les femmes qui y vivaient. Alexandre était là, sur la terrasse de son palais. Elle ne le voyait pas, mais elle savait qu'il contemplait les toits de la ville mangés par les flammes. Lui aussi devait entendre ces voix qui montaient des rues. Ordre d'Alexandre. Partout où elle passait, elle n'entendait que cela. Ordre d'Alexandre. Et les prêtres se laissaient immoler près de la statue de leur dieu. Ordre d'Alexandre. Elle avait marché toute la nuit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à brûler. Jusqu'à ce qu'elle s'effondre le long d'une façade, avec sur les lèvres le goût de la défaite. C'est alors que les chants avaient commencé. Elle s'en souvient très bien. Les Macédoniens, aux quatre coins de la ville, avaient clamé leur joie. La Perse était vaincue. Persépolis ne se relèverait jamais. Elle regarde l'enfant au creux de ses bras et elle sent qu'il ne doit pas être l'héritier de cela. Elle doit le tenir éloigné des ruines et des incendies. Elle doit le protéger des ordres d'Alexandre qui résonnent dans la nuit. Elle parcourt encore un peu les rues délabrées de la ville et elle lui murmure qu'il n'est pas le descendant de ses défaites. « Cela s'arrête avec moi, » dit-elle.
C'est vrai qu'on imagine que ça se dirait très bien sur une scène de théâtre. Quel est le roman de vous que vous préférez, Laurent Godet ?
Je ne peux pas répondre à cette question.
J'étais sûre que vous alliez me répondre ça, justement, le prochain.
Non, je ne peux pas répondre en termes de roman, parce que je...
Le texte de vous, est-ce que...
Peux vous parler des personnages. Il y a des personnages qui s'effacent vite, il y a des personnages qui durent, et qui me... Un de mes personnages préférés, c'est la vieille Joséphine dans Ouragan. Et je l'aime beaucoup, elle, encore aujourd'hui.
Mais c'est une sorte de diptyque, quand je disais que vos personnages, dans vos romans, ceux qui gagnent, c'est ceux qui se retirent, ou qui justement ne veulent pas lutter contre le plus grand que soi, parce qu'on ne lutte pas contre le plus grand que soi et que l'ultime sagesse, d'une certaine façon, c'est de l'accepter. Elle est comme ça. C'est oui. Si l'ouragan arrive à la Nouvelle-Orléans et puis qu'est-ce que finalement on peut faire des tas de choses. Il faut sauver des vies, mais elle, ultimement, elle a vécu sa vie déjà. Alors là, il y a cette notion comme ça de vieille âme qui se dit « Bon, ben voilà, c'est peut-être comme ça que je vais mourir après tout, il faut mourir. »
Oui, et moyennant quoi, elle reste debout et c'est une oui. des seules à rester debout.
C'est pour ça qu'elle reste
moi,
debout,
moi, c'est ça,
non
qui, me, c'est ça que... qui m'intéresse. Oui, c'est cette dualité-là. C'est des personnages qui acceptent d'être traversés par le malheur ou par l'inconnu et qui, dans la tourmente, ont cette force que moi, je trouve belle et noble et qui est un des désirs d'écriture, c'est d'écrire ça, quand les hommes sont beaux parce qu'ils restent debout. C'est ça qui me fait écrire, moi.
Ça fait une très jolie fin. Alors, je m'arrêterai là. Je vais passer la parole à notre public pour poser les questions. Profitez-en, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Hein?
Monsieur, il paraît qu'il faut que vous parliez dans le micro.
Il faudrait parler dans le micro, excusez-nous. Parce que c'est enregistré.
Bon, j'ai bien lu votre bouquin il y a 15 jours. Il a une force derrière Alexandre. Et ça me rappelle le Alexandre de Benoît Méchain il y a 30 ans. Je ne sais pas si vous avez lu celui-là. Le livre d'Alexandre par Benoît Méchain. Benoît Méchain, Alexandre ou le rêve dépassé. C'est dans la série le rêve le plus long de l'histoire, où il décrit Julien, l'apostat, Frédéric de Hohenstaufen, Cléopâtre, et ainsi de suite. Et c'est un livre qui m'avait laissé face à la personnalité d'Alexandre, son rêve, et il l'appelle le rêve dépassé. Et en lisant votre bouquin, c'est comme une suite. C'est Alexandre après sa mort, mais ça reste aussi le rêve. Il faut mettre un adjectif, si vous pouvez le mettre. Si vous devez commencer d'écrire ce livre par le rêve, qu'est-ce que vous direz après?
Je vais reprendre le micro. Le rêve... Ça, c'est le genre de question où je suis nul, moi. Je vais vous trouver une super réponse dans 2 jours. J'ai un esprit lent. Est-ce que je peux réutiliser ce que je vous ai dit tout à l'heure? Pour moi, le rêve d'Alexandre, c'est cette force qu'il possède et qui le brûle. C'est cette chose-là qui moi, me plaît en lui. Ça ne fait pas un adjectif, mais c'est ce qui me vient.
Dépassé, mais parce qu'il y a le rêve d'Alexandre qui est fondamentalement le fait que c'est le premier. D'abord, il amène l'altérité dans l'histoire de l'humanité, puisque avant lui, il y a les Grecs, ils sont d'une grégarité totale, et donc, évidemment, il bat les Perses parce qu'il les respecte, et parce qu'il ne les prend pas pour des moins que rien, et c'est pour ça. Mais en fait, cette notion de l'altérité, comme vous l'avez dit, il bat l'autre, mais finalement, il l'intègre. Et c'est ce rêve d'humanité, en fait, et de mondialisation, ce grand rêve de mondialisation. Je vais conquérir tout le monde et à tout le monde, je vais apprendre ma civilisation macédonienne et ma langue grecque. Et c'est un rêve fou. Mais je veux dire, aujourd'hui, on est en plein rêve mondialiste, mais ça ne marche pas.
Non, moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui me frappe par rapport à l'écriture... La fréquentation d'Alexandre, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui ne croit plus du tout à ça. On nous a servi à volonté la notion de choc de civilisation. C'est une notion que moi, je trouve particulièrement empoisonnée parce qu'elle est très, elle paraît très, très vraie. Et on vit aujourd'hui dans un monde qui a totalement adopté cette notion-là. il y aurait des blocs et ils seraient là pour s'entrechoquer les uns aux autres. Ce que dit Alexandre, c'est que de manière peut-être folle, peut-être démesurée, il n'était pas dans le choc des civilisations. Il était dans la conquête, oui, mais ensuite il assimilait. C'est une autre voie. Je ne dis pas que c'est un exemple politique à suivre, parce qu'il y a toute une part de folie et des deux mesures. Mais en tout cas, ça pose la question, effectivement, par rapport à cette notion particulièrement stérile de choc des civilisations que je trouve intéressante.
Son rêve est dépassé parce que finalement, si on regarde ce qui se passe 3000 ans après, je ne sais pas ce qu'en dira Laurent, mais 2400 ans, de 300 ans, son rêve est dépassé. C'est même son rêve le plus fou parce qu'en fait, il est parvenu jusqu'à nous. Comment dire qu'il n'a pas accompli finalement son désir d'universalité ou au moins de venir nous porter des valeurs qui étaient les siennes? Ça, il ne pouvait même pas l'imaginer. On ne peut pas savoir ça, c'est le destin.
Non, mais quand vous dites dépasser, vous dites terminer ou vous dites...
Non, c'est le titre du livre.
Non, mais j'ai bien compris. Mais
comme ça, oui.
Comment on l'entend, dépasser? Est-ce que c'est dépasser au sens... Est-ce que c'est périmé? Ou est-ce que c'est dépasser au sens où c'est...
Ah non, moi, j'ai compris comme surpasser, moi. Non, moi, j'ai compris surpasser.
D'accord. Surpasser.
Monsieur, il faudrait vraiment parler. Mais il n'y a pas un micro, ça part,
vous entendez? Ah, d'accord. Mais il y a une constance que vient de soulever madame. Julien, Alexandre, Frédéric de Hohenstaufen avec sa réunion avec les Arabes à Saint-Jean-d'Acre, tous ceux-là ont rêvé de mêler l'influence de l'Occident et de l'Orient ensemble. Tous ces grands Cléopâtre, la même chose.
Mais dans ce cas-là, c'est drôlement raté.
Oui. Les rêves, c'est des rêves qui ne finissent pas. Ce n'est pas des réalités.
Non, mais dans le cas d'Alexandre, ce n'est pas si raté que ça. Parce que...
Non, non, pas dans le cas d'Alexandre, ouais. Mais aujourd'hui.
Ah oui, aujourd'hui, c'est triste. Oui.
Non, pas dans le cas d'Alexandre. Une autre question?
Moi, c'est un autre livre. J'ai beaucoup aimé vos livres, mais il y en a un qui m'a bien frappé, Les Portes de l'Enfer. Je sais que c'est tout à fait différent du livre de ce soir, mais ce qui m'avait fasciné, c'est ce désir d'un père de retrouver son enfant mort. Il s'en va jusqu'aux portes de l'enfer pour se réconcilier avec l'âme de son enfant. Et c'est assez bouleversant de voir quand on arrive au niveau de l'enfer et de voir ses âmes. Et chaque personne, chaque âme, qu'il y a quelqu'un qui pense à elle, il y a comme une lumière. J'ai trouvé ça très beau. Tout le livre est d'ailleurs cette pensée que, quelque part, quelqu'un nous pense à nous, dans l'au-delà.
Ben, merci.
Mais j'aurais aimé ça que vous développiez un peu qu'est-ce qui vous a amené à penser un livre comme ça et à amener une histoire de ce genre.
La Porte des Enfers, c'est un livre sur le deuil. C'est ça qui m'a amené à ce livre-là. C'est l'envie de parler de ça. Alors, dit comme ça, ça paraît très plombant, ça l'est un peu. C'est pas la mort en général. En tout cas, quand on dit la mort, il y a toujours plein de réalités différentes. Il y a la sienne, sa propre mort qu'on envisage, qui terrifie, qui fait trembler la nuit, etc. etc. Mais j'avais pas envie de parler de ça. J'avais envie de la mort... L'autre mort, celle qui nous frappe, non pas directement, mais à travers le manque, le deuil, la disparition de ceux qui nous entourent. Donc ça, c'est le cœur du livre, c'est le sujet du livre. Donc je voulais parler de ces états étranges, quand on perd quelqu'un de très cher, il se passe des tas de choses que je trouve infiniment douloureuses à vivre et que je trouve en même temps assez passionnant. Avec du recul, hein, je dis ça avec précaution évidemment, sur le moment on est anéanti et il n'y a que ça. Mais après, avec un peu de temps, on se dit, ces choses-là que j'ai traversées, on les traverse dans aucun autre registre de la vie. Et donc moi, il y a plusieurs de ces moments-là qui m'ont guidé. Je me souviens, suite à un deuil que j'avais vécu, il y a plusieurs choses. Il y a une dissolution du temps qui est étrange. Je me souviens d'une espèce de grande et longue journée qui dure plusieurs jours, parce qu'on est, un peu en dehors du monde, on n'a aucune envie d'y participer, on n'a aucune envie de retrouver sa place dans la course quotidienne des choses, et donc on s'en tient un peu éloigné, les journées passent étrangement comme une espèce de grand continuum, la temporalité est bizarre, Et puis, il y a cette autre chose qui m'a guidée vers ça, qui est le questionnement autour de la présence.
Oui.
Dans un premier...
Dont sa mère qui ne veut plus en entendre parler, ne veut plus parler de lui, s'isole, s'éloigne. Et,
non, je ne pensais pas à ça, je pensais par rapport au fait que quand on perd quelqu'un, on le perd, donc il disparaît, il n'est pas là. Oui. Et en même temps, il n'a jamais été aussi présent. Parce qu'on y pense tout le temps, parce qu'on a mal de ne pas la voir, parce que ça devient presque parfois une sorte d'obsession douloureuse. Donc ce rapport-là entre... évidemment, si on dit mort ou vivant, c'est vrai que c'est deux choses très différentes, imperméables l'une à l'autre. Si on dit présent ou absent, tout d'un coup, ça devient compliqué. Dans les moments de deuil, qui suivent un deuil, on pense infiniment plus souvent à la personne qu'on vient de perdre qu'à des tas de gens qui sont encore vivants et qu'on n'appelle pas, à qui on ne parle pas, etc. Donc on est plus avec eux, les morts. Donc voilà, j'avais envie de parler de tout ça. Et puis de comment aussi, c'est le dernier point qui est très présent dans La Porte des Enfers, je crois, parce que j'y crois fondamentalement, je crois que quand on perd quelqu'un, on meurt un peu avec lui, forcément, que ça vous entame définitivement. Je déteste l'expression « faire son deuil ». Je crois qu'on ne fait jamais son deuil là. Il y a des choses simplement qui meurent avec la disparition de ceux qui nous entourent et qu'on aimait. Toute la question ensuite, c'est de continuer. Et il faut continuer, mais pas avec l'idée qu'on va se reconstruire à l'identique comme c'était avant. Il y a des choses qui sont définitivement mortes. Moi, je le ressens. Il y a des lieux dans lesquels on n'ira plus jamais. Il y a des gestes qu'on ne fera plus jamais. Il y a des sentiments qu'on ne vivra plus jamais. Et donc, on ne fait pas son deuil. Moi, j'y crois pas à ça. Donc, j'avais envie de parler de ça, de comment est-ce que la mort... Et je parle de la mort, de la disparition des autres, opère cette espèce de double changement, de nous tuer un peu, quand même, et en même temps, comment est-ce que les morts sont vivants en nous ? Et ça aussi, j'y crois beaucoup. Donc, La Porte des Enfers traite de tout ça.
Merci beaucoup. Je pense que c'est
bon
vers ça. Tout le reste de votre œuvre d'ailleurs est très bien.
Ben, merci. une question, une travailler sur un nouveau roman, Laurent Godet, ou une nouvelle pièce de théâtre ou...
Non, pas encore sur un nouveau roman, parce qu'il faut attendre que la bouteille se remplisse un petit peu et que les batteries se rechargent. Je ne peux pas enchaîner directement. Je commence à avoir des envies, mais il y a plusieurs idées et j'ai toujours besoin de me laisser un peu le temps pour vérifier que c'est une vraie bonne idée et pas une fausse bonne idée. Vous savez, il y a des fois des enthousiasmes qui sont des fausses bonnes idées. Donc il faut un peu laisser le temps de tourner le sujet. Mais par contre, je suis engagé sur des projets qui sont plutôt qui sont des livrets d'opéra. Là, je dois écrire 2 livrets avant Noël. Et donc ça, le planning ne dépend pas de mon bon vouloir. Il est fixé depuis longtemps. Je me suis engagé à le respecter. Donc là, il y a un travail. Je suis sur ces textes-là pour l'instant.
Mais enfin, on ne peut pas dire que vous laissiez décanter ou se remplir trop longtemps, parce que quand même, 23 livres en quoi, en 13 ans, oui, un peu en 12 ans, non, oui.
Mais c'est...
Et que à peu près, une parution, je sais très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe, je sais que il se peut qu'un jour vous écriviez pas pendant 5 ans, on ne sait pas, mais quand même, il y a un rythme, une véritable source qui est là au quotidien. Ça vous habite au quotidien ?
Ah oui, oui, c'est ma vie complètement. Voilà. Oui. Vous avez raison de dire qu'on ne maîtrise pas ça et que peut-être le prochain, je mettrai 5 ans à l'écrire. J'espère avoir la sagesse de dire si c'est 5 ans, c'est 5 ans. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est vrai aussi, je vais finir avec Alexandre à nouveau, je ne suis pas Alexandre le Grand, mais il y a une chose qui me touche dans ce personnage-là et que j'essaye d'intérioriser aussi. Pour vous dire aussi que travailler sur Alexandre le Grand, c'est pas travailler sur une figure historique comme un historien ou un archéologue. C'est que s'il m'intéresse, c'est parce que j'ai envie que ça ait des résonances avec ma petite vie à moi et avec éventuellement celle du lecteur. Alors évidemment, quelles sont-elles ? Ben ça, le rapport à l'écriture, par exemple. J'ai la chance, vous l'avez dit en introduction, d'avoir eu un parcours aidé, joyeux de plein de manières, par le succès, par le lectorat qui a accepté la rencontre tout de suite, qui la confirme au fur et à mesure des livres. Tout ça, c'est des très très beaux cadeaux que certains auteurs attendent très longtemps. Moi, ça m'est tombé dessus très vite, tout de suite. Je trouve, et c'est là où je rejoins Alexandre, que peut-être pour soigner ma culpabilité ou peut-être simplement parce que du coup je trouve que ça fait partie du pacte à avoir. C'est très bien tout ça, ça crée un confort dans la vie que j'adore et qui est formidable, mais du coup je me dis qu'une de mes responsabilités c'est de me... je dois pas me laisser en paix par rapport à l'écriture, parce que alors là je deviendrais repu et je déteste cette idée-là. Donc la moindre des choses est d'être dans l'appétit, quitte à être dans la fatigue, et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, et j'ai beaucoup été dans la fatigue, mais ça c'est pas grave, je préfère être dans l'appétit pour ne pas être dans la satisfaction bête de l'homme soi-disant parvenu, je ne sais pas, je ne suis pas parvenu, j'ai envie de continuer, et voilà, je vous ai emprunté à Alexandre sa fièvre.
Et il y a toujours quelque chose derrière l'iphase.
Oui, bah, le gros roman de 600 pages pour l'instant, en ce qui me concerne.
Ben ça va prendre plusieurs années à écrire.
Et vous savez que justement, Alexandre a été lâché sur les bords de l'Iphase par son armée. Alors oui, J'espère que mon éditeur ne va pas me lâcher pour le gros roman de 600 pages.
Laurent Godet est d'ailleurs un double éditeur, puisque vos livres sont publiés par les éditions Actes Sud et Le MEAC.
Et qui me font l'immense plaisir d'être là toutes les deux. Merci.
Voilà. Je vous remercie beaucoup pour cette belle conversation. Et à bientôt.